Bonjour. Vous allez bien? Vous avez passé de bonnes vacances? Oui. Pas trop le coup de blues de la rentrée, non? Ça va? Ils sont où les jeunes, là? Les enfants? Non? Bon, ça tombe bien, aujourd'hui, on va parler de déprime et de coup de blues. Je vais vous parler un petit peu de nos vacances, juste pour vous montrer combien on peut être des êtres qui sont tantôt contents et puis tantôt juste complètement déprimés. On a vécu une semaine en commun avec Joséphine, ma femme, cette année pour les vacances. Alors on l'attendait cette semaine, on l'attendait parce qu'on se disait on avait une année bien chargée, vivement les vacances, enfin on va pouvoir souffler, ça va être bien. Alors vous savez quoi, on a décidé de prendre les vélos, la charrette avec les deux enfants, et de voilà, partir avec les tantes et faire du vélo, profiter ensemble en famille. Bon, super, ok. Première nuit, compliquée, bon, c'était normal, on s'y attendait, les enfants devaient s'habituer, tout ça. Deuxième journée, super, excellent, trop bien, des super souvenirs, les enfants sont bien pris dans le rythme, ils dormaient tranquillement derrière, nous on roulait, en plus ça descendait, donc c'était sympa. La soirée est géniale, on a fait de la piscine et tout, enfin bref. Et puis, on se couche dans la tente. Le temps que les enfants se calment, qu'ils commencent un petit peu à s'endormir. Et là, tout à coup, on a subi une attaque de monstres, de bêtes immondes, qui s'appellent des virus, en fait. On a eu la gastro. Voilà. Et là, en quelques secondes, on passe du bonheur voilà, à autre chose. Le fond du gouffre. C'est ce mot-là qui sera dans le texte qu'on va voir, le fond du gouffre. À ce moment-là, voilà, on s'était dit, on attendait ces vacances, on attendait pouvoir en profiter. Ben, non. On était juste au fond du gouffre. Bon, on en rigole après coup, hein. Ça va, ça ne dure pas longtemps. Mais c'est ce sentiment-là, en fait, quand je préparais la prédication, je me suis dit, mais c'est ça, en fait. On est des êtres qui peuvent être dans le bonheur, et puis l'instant d'après, au fond du gouffre. Aujourd'hui, on va se plonger sur ce texte, c'est le psaume 130. C'est un cantique des montées. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose, cantique des montées? Il y en a 15, comme ça, qui se suivent à la fin du livre des psaumes. C'est, en fait, des chants, cantiques ou poèmes que chantaient les Hébreux. Ils chantaient les Hébreux quand ils montaient vers Jérusalem. En fait, il y avait des pèlerins qui allaient vers Jérusalem, et dans cette procession, alors est-ce que c'était des marches, est-ce que c'était tout le long du chemin? En tout cas, ils montaient vers Jérusalem, et pendant cette montée, voilà, ils récitaient ou ils chantaient ces cantiques. Ils étaient organisés comme ça en 15 psaumes, et ils avaient tous un peu une couleur différente, un message différent, et ils avaient une idée centrale, ces cantiques des montées. Elle était orientée autour de la présence de Dieu au sein du peuple, ce fameux temple, cette présence-là, et cet espoir qu'ils avaient, les Hébreux. Voilà, juste quelques dizaines d'années ou quelques siècles avant Jésus-Christ, hein, c'était là, cette période, ils avaient cet espoir qu'un jour, la descendance royale va apporter le bonheur. C'était ça un peu la thématique de ces cantiques. C'est très intéressant, hein, si un jour vous voulez étudier. Très intéressant. Alors, ce psaume-là, psaume 130, comment est-ce qu'il est construit? Les Hébreux aimaient bien une construction comme ça, un peu en symétrie, vers un point central. Vous le voyez, il est décalé un petit peu tout au milieu. Avec une idée qui progresse vers ce point central, et ensuite ça revient à chaque fois sur chaque point avec des éléments de réponse. On va le voir un peu plus en détail. Ayez bien en tête aussi qu'on étudie un psaume, c'est-à-dire qu'on ne va pas étudier un texte qui va enseigner un dogme, qui va traiter d'un sujet. Non, on va étudier un texte qui est un hymne, un poème, qui a une forme littéraire belle, qui transmet de l'émotion, d'accord? Aujourd'hui, en français, on a là, c'est la traduction second 21, eh ben, on a traduit en français un texte original hébreu, mais qui, en hébreu, ancestral, était beau, d'accord? La forme était belle. Il y a de l'émotion qui passait dans ce texte. Aujourd'hui, on a des traductions en rime français, par Théodore de Bèze, mais c'est un vieux français, du coup on ne comprend pas non plus, mais il y a eu des traductions modernes aussi qui existent. Et puis on a aussi la musique classique, Jean-Sébastien Bach a composé deux cantates avec ce texte, c'est magnifique. Voilà, on ne va pas l'écouter ce matin, hein, ce n'est pas le sujet, on va s'intéresser au contenu. Mais ayez bien en tête que c'est un contenu pas seulement théorique, c'est un contenu chargé d'émotions aussi, surtout quand on parle de ce coup de blues qu'on a. Hein. Dieu, mon héros qui change, ma déprime en bonheur, que je vois son pardon au lieu de mes erreurs. Je vous propose de regarder le texte dans une version un peu plus littérale, c'est-à-dire un peu plus proche des termes hébreux de l'époque. Et vous voyez, il y a trois colonnes, il y a un peu trois idées qui s'articulent comme ça. De la déprime vers l'espoir du bonheur, concentré sur la grâce et pas mes erreurs, je m'accroche au Créateur. Alors, je vous propose peut-être d'abord de lire dans la version, comment on peut appeler ça, un peu plus digeste, hein. Du fond du gouffre, je fais appel à toi, Éternel. Seigneur, écoute-moi, que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu tenais compte de nos fautes, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister ? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel de toute mon âme, je m'attends à sa promesse, je compte sur le Seigneur. Plus que les gardes n'attendent le matin. Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Des profondeurs, je crie vers toi, du fond du gouffre, la déprime. Hein, on parle d'une certaine forme de déprime là, on ne va pas parler surtout pas de la dépression qui est une maladie, ou, enfin, voilà, on va creuser cette notion, vous allez voir de quoi on parle. Dans le mot là, de hébreu, il y a l'idée de couler dans de l'eau jusqu'au fond, toujours plus, alors qu'on est fait pour respirer à la surface, on est dans un milieu qui n'est pas fait pour nous, et on s'enfonce. Par exemple, essayez un peu de vous rappeler vos derniers coups de blues. On peut être dans un état comme ça où on est déçu de nous-mêmes, en fait. Où, par exemple, je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup. Ben, souvent, je m'en veux, je suis déçu de moi, parce que en fait, j'ai reporté au lendemain. Puis au final, je rate mon coup, quoi. Ou je sais pas, on peut imaginer quelqu'un qui veut faire un régime, qui veut faire attention à ce qu'il mange. Et puis bah là, j'étais au McDo 3 fois cette semaine. Là, j'ai mangé plein de gâteaux. Et puis on est déçu de nous-mêmes. C'est ce coup de blues là, cette déprime là, où on veut essayer d'être un mari parfait, un prince charmant, un père parfait. On aimerait l'être. On voit les autres. On a l'impression que les autres le sont. On aimerait l'être aussi. Et on essaye, on l'est pas. C'est ce coup de blues là. J'ai beau essayer, j'arrive pas à être heureux dans ma vie. Voilà, vous allez vous dire, il nous ressort un peu des dessins. J'ai inventé des petits personnages pour les enfants, parfois je leur fais des dessins. Et je vous propose, c'est pas que vous êtes des enfants, mais ça peut peut-être vous parler. Ce petit bonhomme, il s'appelle Tigus. Alors, il vit dans une forêt, voilà, dans son milieu, et avec un copain qui s'appelle Longus d'ailleurs, mais vous n'allez pas le voir. Donc là, c'est Tigus, il est dans sa forêt, et dans sa forêt, en fait, il y a quelqu'un de très important. C'est Boubou le hibou. Okay, Boubou le hibou, c'est quelqu'un qui veille sur Tigus, qui prend soin de lui, c'est quelqu'un qui lui explique aussi comment vivre, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, et comment faire. Donc là, Tigus, il se balade dans la forêt et il voit quelque chose. Il voit un trou. Au fond de ce trou, une balançoire. Vous savez, les balançoires, là, sur les jeux, où on appelle ça... Non, on ne va pas appeler ça. Il y a une balançoire dans ce trou. Bon, vous allez me dire... Mais pour Tigus, il voit une balançoire, il veut faire la balançoire. Et Boubou, le hibou, il a dit, cette balançoire, tu n'y vas pas. Parce que si tu y vas, ben, tu ressors plus, quoi. Ben, Tigus, plus fort que lui, hein, il va essayer la balançoire. Alors, il est dans le trou. Imaginez, il faut sortir. Alors, ben, il se dit... je vais aller de l'autre côté de la balançoire pour sortir. Et en fait, bah, la balançoire, elle penche de l'autre côté. Et il refait pareil, et la balançoire penche de l'autre côté. Et il n'arrive pas à sortir de son trou. Alors voilà, il y a Boubou les Boubou qui arrive et il demande, mais qu'est-ce que tu fais dans le trou ? Bah, j'arrive plus à sortir. Ah bah oui, bah, je t'avais dit de ne pas faire de la balançoire. Voilà, alors Tigus, il est au fond du gouffre. Ok ? Et il s'en veut. Il a un coup de blues. Le texte continue juste comme ça. Il y a juste un mot, des profondeurs, qui fait l'état de ce qui se passe dans le cœur. Eh bien, je crie vers toi. Je n'ai pas été créé pour couler sous l'eau, j'ai été créé pour respirer la tête hors de l'eau. Je suis sous l'eau. Qu'est-ce qui se passe, Créateur ? Je crie vers toi. Au secours. Pour un pèlerin hébreu qui marchait, qui chantait ce psaume, dans son identité d'hébreu, il savait que son devoir, son premier devoir, était de représenter Dieu sur la terre. C'était le peuple de Dieu. Vivre selon la loi divine, refléter les valeurs de Dieu, et puis profiter des bénédictions aussi qui en découlent. Malheureusement, le constat qu'il faisait de la situation, c'était que la loi n'était pas respectée. Ils ont été, vous connaissez certainement hein, l'histoire des Hébreux, ils ont été déportés, décimés, torturés, éparpillés dans le monde de l'époque. Après un certain temps, certains sont revenus en Palestine, reconstruire un peu une identité, etc. Mais ils étaient toujours sous domination, les Grecs, les Romains. Ils étaient opprimés, et ça devait pas, et c'était pas comme ça devrait être. Ils avaient leur idéal, ça devrait être comme ça, c'était pas comme ça. Sur le plan des bénédictions, ça devrait, ils devraient être remplis de bénédictions et vivre le bonheur, mais ça n'était pas comme ça. Sur le plan de la loi, ils devraient respecter la loi, ils devraient refléter les qualités, les valeurs de Dieu, et ça n'était pas comme ça. Et en plus de ça, c'était leur faute. Ils portaient le poids de leur faute. Ils se sentaient toujours un peu plus au fond du gouffre. Essayez de vous rappeler peut-être votre dernier coup de blues. Enfin, si ça vous arrive. Je pense que ça vous arrive. C'est assez intéressant. Alors, je ne suis pas psychologue, hein, mais j'ai l'impression que c'est assez juste. Souvent, quand j'ai un coup de blues, c'est que dans ma tête, en fait, j'ai un idéal. Ça devrait être comme ça, mais ça n'est pas comme ça. Et c'est ça qui me met mal, en fait. C'est comme les exemples que je donnais tout à l'heure. J'aimerais être un père parfait, un prince charmant. Je l'ai, cet idéal, mais je ne le suis pas. Ou j'ai mon idéal minceur pour briller sur les plages. Mais c'est pas comme ça. Enfin, souvent, pas comme ça. Ok ? C'est ce sentiment-là. L'être humain est fait pour briller des qualités de Dieu. Mais cela n'est pas comme ça. Et ça s'appelle le péché. Le péché, ça veut juste dire ça. Ça veut dire qu'on a un idéal créationnel, mais on ne le vit pas. Rater le but pour lequel nous sommes créés. Et le psaume pose la question, est-ce que le Créateur est concentré sur ce poids de mon péché, sur cette charge de mes erreurs ? S'il est concentré dessus, est-ce que je peux encore exister ? À quoi bon j'existe pour lui ? Quelle est ma raison d'être ? mets en toi le pardon. Si j'existe encore, c'est grâce au pardon du Créateur. En lui le pardon. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il me pardonne mes erreurs, mais que je trouve aussi en lui la capacité de pardonner aux injustices que je vis. Parce que parfois, je suis aussi en coup de blues parce que je subis des injustices. Je trouve en lui le pardon. Mais en toi le pardon pour que tu sois craint. Dieu pardonne exprès pour sa gloire. Le pardon de Dieu existe pour qu'il soit honoré, respecté, mis à sa juste place. C'est intéressant, il y a une espèce d'automatisme dans la logique. Le pardon est essentiel pour moi pour que je puisse continuer d'exister. Donc ainsi, Dieu est essentiel et il ne peut que être reconnu à sa juste valeur, honoré. Comme si pour que je puisse exister, Dieu ne peut que faire briller sa gloire au travers du pardon. Et moi, en fait, pour exister, pour subsister, je ne peux que m'accrocher à lui. Et voilà le centre de ce psaume. J'attends, j'espère, je place mon espoir dans le Créateur. Je m'accroche au Créateur. On peut réfléchir sur cette idée. Est-ce que nos coups de blues sont normaux, entre guillemets, en tout cas voulus par le Créateur? Ces coups de blues là où on se dit « je suis un raté, j'ai tout raté, j'y arrive pas ». Ces coups de blues sont là pour me pousser à m'accrocher au pardon du Créateur. D'une part pour que je puisse subsister et d'autre part pour que sa gloire resplendisse. C'est la dernière des choses à laquelle je pensais dans la tente avec du vomi partout. Est-ce que j'ai ce déclic de me dire « ben ouais, je me rends compte que c'est pas comme ça devrait être parce qu'il faut que je m'accroche à mon Créateur ». Le fait que j'accepte que ce soit normal, c'est déjà un pas en avant. C'est déjà une bonne étape. Et après, la deuxième partie du psaume, en symétrie, comme ça, elle va revenir sur la structure des idées en étant un peu plus applicative. Regardez, ici ce mot-là, shamar en hébreu, il résonne en symétrie, on le trouve dans la première partie. S'il est faute, tu gardes, le mot garde, c'est exactement le même, shamar. C'est le mot garder, en fait surveiller, comme une sentinelle sur son mirador qui, avec ses jumelles, regarde s'il y a un ennemi qui arrive. Cette espèce d'élan qu'on a à scruter la moindre chose. S'il est faute, tu gardes, tu surveilles. C'est ça l'idée. Eh bien, comme une sentinelle qui épie, qui surveille, Dieu ne surveille pas mes fautes. Alors pourquoi moi, j'arrête pas de surveiller, compter mes fautes? Comme une sentinelle qui attend aussi, elle bosse la nuit, la sentinelle, pour voir s'il n'y a pas un ennemi qui vient la nuit, comme une sentinelle qui attend le matin, parce qu'elle sait que le matin, il y a la lumière qui arrive, il y a la relève qui arrive, son job est fini. Comme une sentinelle qui attend le matin, j'attends le pardon et la grâce. Mais comme une sentinelle aussi, en pleine nuit, eh ben c'est pas encore le matin. C'est la nuit. Et quand je suis en plein coup de blues, eh ben je suis en plein coup de blues. Et c'est comme ça. Mais je peux choisir, comme dans ce psaume, mon âme vers le Seigneur. Je te parle, mon âme. Va vers le Seigneur. On peut dire à son âme de se concentrer sur l'amour que le Créateur me porte, malgré ma vie ratée, malgré mes erreurs, malgré mes douleurs. En fait, ça touche à qui je suis, ça touche à mon identité, à ma valeur, au sens de ma vie. Et ça ne peut que me faire du bien, ça m'attire forcément plus vers le bonheur que la déprime. Ok, jusque-là ? l'espoir de vivre le bonheur. Car en Dieu, la grâce, ou bienveillance, compassion, bonheur. Là, dans le psaume, on passe à un autre registre, on s'adresse à tout Israël. Israël, ton espoir dans le Créateur. C'est comme si avant c'était quelque chose de plus personnel, et là c'est « Hey, tout le monde, écoutez, accrochez-vous au Créateur, c'est lui qui s'est redonné le bonheur. » Mais en fait, sans les trois derniers vers, on a un beau discours du dimanche matin, ça sonne bien, c'est beau, mais il manque quelque chose. Les trois derniers vers. Abondance en lui de délivrance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Ce mot racheté, c'est l'idée de la rédemption, paiement d'une rançon, et c'est placé au futur. On a parlé de la grâce, du pardon de Dieu, qui sont des valeurs magnifiques. On en a parlé depuis le début du culte, on a chanté là-dessus, on a prié là-dessus. Comme si c'était des valeurs intrinsèques de ce Dieu qu'on connaît, parce qu'on en parle tous les dimanches, on en parle peut-être pendant nos semaines. On connaît peut-être aussi juste parce que c'est de la culture générale et que ben, Dieu, c'est le bon Dieu, quoi. On sait qu'il est sympa, en fait, quoi. Il pardonne. Et en fait, si on oublie le contenu de ces trois derniers vers du psaume, c'est comme si au fond de notre roue, on se faisait une idée d'un moyen de salut, une corde qui descend, et puis on essaie d'attraper cette corde. C'est une idée, en fait. Il n'y a pas de corde. Le pèlerin hébreu qui marchait vers Jérusalem, il chantait ce psaume et il disait « C'est ce Dieu qui rachètera un jour Israël de toutes ses fautes. » Alors, aujourd'hui, on a la Bible, on connaît la suite, mais mettez-vous dans sa tête, il ne savait pas trop à quoi ça allait ressembler, mais il y croyait. En tout cas, il le chantait. Comment est-ce qu'il peut pardonner ? En tout cas, il va payer le prix. C'est lui qui va payer le prix. Le pèlerin, il connaissait ce Dieu. Les éléments qu'il avait, c'est les mêmes que ceux qu'on a dans nos Bibles. C'est l'Ancien Testament. Il plaçait son espoir dans le Créateur, pas seulement parce qu'il pardonne et que c'est son caractère de pardonner à Dieu. Non, il connaissait le caractère de Dieu. Il avait le livre de l'Exode, par exemple. Dieu, c'est un Dieu qui donne des règles. Exode 20. Vous avez les 10 commandements, mais vous avez tous les autres commandements. Il y a un sacré nombre. La vie, ça doit être comme ça. Vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Et si vous ne faites pas gare à vous. Et Dieu qui ne tolère pas la faute. Exode 33, la première grande tuile des Hébreux. Ils se sont engagés à respecter la loi. Et qu'est-ce qu'ils ne font pas quelques jours plus tard? Ils se sont engagés à n'adorer que Dieu. Ils font un veau d'or et ils l'adorent. Et vous voyez comment Dieu réagit. Dieu, à ce moment-là, il a envie de les abandonner, de s'en aller, de les laisser tomber. Il ne peut pas coexister avec l'imperfection. Ce pèlerin hébreu, il connaissait ce Dieu comme ça. Un Dieu tellement puissant que l'humain ne peut pas subsister en sa présence. La notion du tabernacle, ensuite du temple. Ça, il le connaissait, le pèlerin hébreu. Il connaissait aussi toutes les lois un peu religieuses, entre guillemets, tous les sacrifices que Dieu a demandé de mettre en place. Pourquoi ? Parce que Dieu applique la sentence contre la faute. Il y a une sentence. Il connaissait, le pèlerin hébreu, ce bouc qu'ils envoyaient dans le désert tous les ans, sur lequel ils mettaient la faute symboliquement de tout le peuple. Et un bouc qui prenait tout, il prenait cher, et il partait dans le désert. Ce fameux bouc émissaire. Avec ce psaume, il savait que Dieu appliquerait la sentence du poids de ses fautes. Il savait que se sentir au fond du gouffre était normal. Et nous avons la suite de la Bible que nous aimons lire et dans laquelle on peut voir et revoir ce Jésus-Christ dont on parle depuis le début du culte. Dieu incarné en humain, abandonné, seul, incompris sur la croix, souffrant publiquement le poids de la faute de chacun de nous. Le bonheur, selon ce psaume, c'est celui de la délivrance du poids de nos fautes, la charge de tout ce qu'on rate dans nos vies. Cette délivrance n'est pas juste une idée que le Créateur pardonne ou qu'il tolère, en fait. Cette délivrance est réelle parce que le Créateur a pris sur lui. Le Créateur a focalisé sa colère contre lui-même, en fait. Et le jugement a bel et bien sévi. La colère a bien fait son effet. Petite pause. On revient sur Tigus dans son trou. Il descend, il veut sortir, il n'y arrive pas. Voilà, au fond du gouffre. À ce stade, il sait que Boubou le hibou, il pardonne. Voilà. Bon, salut. Comment il sort? Qu'est-ce qu'on fait? On finit comme ça? Non, on finit pas comme ça. Allez. Voilà, Boubou le hibou, il descend dans le trou. Et ça permet à la balançoire de se soulever. Et Tigus, il sort du trou. Dieu a vraiment pris sur lui, en Jésus-Christ, le poids de nos fautes. Et c'est ça qui change tout, en fait. C'est pas juste une idée. C'est réel. Bon, après, Boubou le hibou, il a des ailes. Il s'envole, il retrouve Tigus. Hein, ça nous fait penser aussi à Jésus-Christ, 3 jours plus tard, il est ressuscité, il a vaincu la mort, il est là, il est vivant. Réfléchissons à ça. Quand je tourne en rond dans ma déprime, quand j'en peux plus de voir combien je suis un raté, si je m'accroche seulement à l'idée d'un Dieu qui pardonne, en fait, je vais avoir cette tendance à lui montrer qu'en fait, non, ça va, t'as pas besoin, je vais m'en sortir. T'es gentil, mais ça va aller. Cet orgueil qui me pousse à m'en sortir tout seul, en fait, ça me colle à la peau, c'est bien plus insidieux qu'on croit. Si je m'accroche au Dieu réel qui pardonne, c'est parce que je le vois souffrir sur la croix le mal auquel moi j'ai droit à cause de mes erreurs. Si lui a déjà souffert, c'est pas juste une idée, mais je suis bien et bien délivré. C'est ça la notion de la délivrance. Délivré de cette peine que j'ai plus besoin de porter. Voir Christ portant ma peine, c'est cela la clé de mon bonheur. Je pense qu'il y a 3 points clés à retenir de ce texte. À ressortir au prochain coup de blues, c'est pas une recette comme ça qu'on fait, mais je pense que le texte, voilà, fait ressortir 3 points à retenir. La première chose, c'est pourquoi j'ai ce coup de blues ? Est-ce que c'est une déprime au sens de la culpabilisation ? Est-ce que je suis déçu de moi à cause de mes ratés ? Première chose à se demander. Deuxième chose, est-ce que j'accepte que ce soit normal d'avoir un coup de blues, entre guillemets, en tout cas que c'est voulu par Dieu, pour que je puisse m'accrocher à lui et qu'il soit glorifié au travers de son pardon ? Deuxième chose, est-ce que j'accepte que ce soit normal ? Et troisième chose, il faut que j'essaye de voir Christ payant le prix de mes ratés, que je m'accroche au Créateur, mais le Créateur qui est mort, qui a pris sur lui, en la personne de Jésus-Christ sur la croix, et du coup je lui rends tout l'honneur. J'essaye de voir Christ payant le prix. Voir Christ portant ma peine, c'est la clé de mon bonheur. Et je relis encore l'idée centrale de ce psaume. Dieu mon héros, Dieu, mon héros qui change ma déprime en bonheur, que je vois son pardon au lieu de mes erreurs. Amen.